On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Le chanteur des colocs nommé Personnage historique du Québec. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 27 novembre 2025 dans les As de l'info. André Fortin, mieux connu par son surnom Dédé, était le chanteur du groupe de musique Les Colocs. Il vient d'être nommé personnage historique par le gouvernement du Québec. Ça veut dire qu'il a marqué la culture et l'histoire de la province. Pour comprendre en quoi c'est un artiste important, j'ai discuté avec Philippe Meilleur, auteur d'un livre sur Dédé Fortin et grand fan des colocs. Dédé et les colocs, en bref. André Dédé Fortin a fondé le groupe Les Colocs en 1989 à l'âge de 26 ans. Il a composé la musique et les paroles de la plupart des chansons du groupe, en plus de chanter, jouer de la guitare et des percussions. Les Colocs ont enregistré 3 disques entre 1990 et 1998. Parmi leurs grands succès, on compte Julie.
Bon, 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 ma petite Julie, c'était pas si jeune, je t'aurais pris, dis-toi que je t'ai un gars pas servi, viens me revoir quand t'auras 20 ans.
La rue principale.
Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, ça s'appelait Saint-Cyril, la coop, le casse-bord, la caisse-pop, le croque-mort, et le magasin j'ai...
Bon lieu.
Bon lieu, donne-moi un job, faut que je fasse mes paiements, amener ma blonde au restaurant, puis checker les numéros gagnants.
Et tassez-vous de là.
Tassez-vous de là, il faut que je voie mon chum, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti.
Le décès de Dédé en 2000 met fin au groupe. Philippe, crois-tu que Dédé aurait été surpris de recevoir cet honneur? Je pense que oui. C'était quelqu'un qui doutait beaucoup de lui. Il était conscient que sa musique rejoignait les gens, mais il ne cherchait pas nécessairement la gloire. Ce qui comptait, c'était sa musique, son art, son écriture. Selon toi, qu'est-ce qui fait que la musique de Dédé et des colocs est spéciale? Quand les colocs sont arrivés en 1990, la chanson québécoise francophone n'allait pas bien. Avec leur musique un peu folklorique, les colocs ont redonné vie à la musique d'ici. Ils ont aussi inspiré beaucoup d'artistes pour la suite. À mon avis, il n'y aurait pas eu de Cowboy Fringant sans colocs. Pourquoi sa musique nous touche? Je pense que c'est parce qu'elle parle de nos valeurs, comme la solidarité face aux injustices. Ça revient beaucoup dans les chansons que Dédé a écrites. Par exemple, La rue principale. La mélodie est très entraînante, mais il parle des grands magasins qui font fermer les petits commerces. Il était tellement sensible aux inégalités que, pour le vidéoclip de Bonlieu, il a embauché 140 itinérants et personnes à faible revenu comme figurants. Il était aussi très fier d'être Québécois. Oui, mais c'était une fierté qui était très inclusive. Dans les colocs, il y avait un guitariste autochtone anglophone et un Français qui jouait de l'harmonica. Les frères Elage et Karim Diouf du Sénégal se sont joints au groupe plus tard. Dédé souhaitait que le Québec devienne un pays, mais un pays ouvert sur le monde, qui accueille des gens de partout. Une statue sur la rue principale. Samedi, une statue de Dédé a été dévoilée à Normandin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la ville où il a grandi. La statue a été érigée sur la rue Saint-Cyril, la rue principale de sa fameuse chanson. Quel mot choisirais-tu pour le décrire? Moi, je dirais qu'il était créatif. C'était un vrai artiste. Il faisait du cinéma, de la musique, il écrivait beaucoup. Rêveur. Il rêvait d'une société plus juste. Il était très idéaliste. Romantique. Il vivait ses émotions de façon très intense. Tu n'as jamais pu lui parler, mais si tu le pouvais, qu'est-ce que tu lui demanderais?
Moi, je lui dirais plein de choses. J'en aurais assez pour 2 semaines à temps plein.
Je serais curieux de savoir ce qu'il penserait des inégalités dans notre société. On aurait besoin de ses lumières pour nous brasser un peu et nous ramener aux valeurs du Québec. Toi, qui nommerais-tu personnage historique?
J'ai mauvais caractère, peut-être même un peu cruel, un fichu caractère.
Adis Ryan à la COP30. Porter les messages de sa nation, toute une mission. Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 27 novembre 2025 dans les As de l'Info. Nous, les jeunes, mais aussi les Premières Nations, nous faisons partie de la solution. C'est le message important qu'Adish Rayen Diego Gros-Louis-Roch a voulu transmettre à la COP30, cette grande réunion de l'ONU à propos des changements climatiques. Ce jeune autochtone de 20 ans a passé 2 semaines passionnantes au Brésil pour y participer. Il m'a raconté son expérience. Bonjour, Adish Rayen. Pour commencer, peux-tu me parler de toi? Réponse. Kwe Ophélie Elisas. Je porte 2 prénoms. Adish Rayen, qui signifie « celui qui voit les 2 astres en langue Wendat » et Diego. J'ai 20 ans et je suis originaire de Wendake, près de Québec. J'étudie en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Pourquoi as-tu décidé de participer à la COP30? Une association cherchait un autochtone pour accompagner un groupe de jeunes du Québec à la COP au Brésil. J'ai tenté ma chance parce que l'environnement m'a toujours passionné. Et c'était pour moi une occasion unique de représenter ma nation, les Wendat, lors d'un événement international. Comment t'es-tu rendu là-bas et comment se passaient tes journées? J'ai dû prendre le train et l'avion. Ça m'a pris 35 heures. L'Amazonie, c'est vraiment loin du Québec. Une fois là-bas, mes journées étaient bien occupées. Il y avait des réunions de 7 heures à 20 heures et on travaillait encore en soirée. Tout ça était quand même fatigant, mais vraiment très intéressant. Quel message voulais-tu transmettre aux participants de la COP? Je voulais leur dire que, pour les Wendat, c'est important de protéger le territoire, par exemple en cultivant le sol sans l'épuiser, en évitant de couper trop d'arbres dans les forêts. J'ai parlé des traditions qui nous tiennent à cœur, la chasse, la pêche et cultiver des légumes comme les 3 sœurs, maïs, courge, haricots. Pour nous, il est essentiel de respecter la nature en ne prélevant que ce dont nous avons besoin. As-tu rencontré des gens importants? Oui. J'ai rencontré les ministres de l'Environnement du Canada, de la Belgique, du Brésil. Je leur ai parlé de nos projets d'énergie verte, comme les éoliennes ou l'énergie solaire. J'ai aussi eu pour mission de demander aux représentants du gouvernement québécois de créer un comité jeunesse à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour que nous, les jeunes, puissions participer aux discussions sur les changements climatiques, car c'est important pour notre avenir. Quel moment a été le plus marquant? Il y en a eu beaucoup. Mais le moment le plus fort, c'était quand j'ai offert un cadeau de ma nation au grand leader autochtone d'Amérique du Sud, le chef Raoni. C'était une pagaie peinte aux couleurs de l'ONU. C'est une tradition chez les Wendat d'offrir des présents à d'autres autochtones. Adish Rayen a offert une pagaie au chef Raoni. Elle représente l'avancement et la protection de l'eau.
Quelles sont tes conclusions sur cette COP? Même s'il faudrait que les choses changent plus vite, je suis rempli d'espoir. Il y a déjà beaucoup de progrès pour protéger la nature et lutter contre les changements climatiques. Je suis très fier d'avoir représenté ma nation et j'ai adoré parler de protection de l'environnement avec des personnes de partout dans le monde. C'était un rêve d'enfant que je réalisais et je veux continuer sur cette voie. C'était ma première COP, mais pas ma dernière. Si tu devais offrir un cadeau qui représente tes valeurs à un grand chef, qu'est-ce que ce serait? Des immigrants manifestent pour avoir le droit de rester au Québec. Un texte de Camille Lopez, paru le 27 novembre 2025 dans les As de l'Info. En ce moment, de nombreux immigrants au Québec vivent de la tristesse, de la colère et de l'anxiété. C'est parce qu'ils risquent de devoir quitter la province en raison d'une récente décision du gouvernement. J'ai parlé à Frédéric et Zacharia, qui sont touchés par cette nouvelle, pour mieux comprendre la situation. Un peu de contexte. Pour immigrer au Québec, une personne peut passer par plusieurs processus qui sont eux-mêmes composés de plusieurs étapes. Oui, immigrer, c'est compliqué. Depuis 2010, le programme de l'expérience québécoise, PEQ, permettait à beaucoup d'étudiants et de travailleurs étrangers d'accélérer leurs demandes d'immigration. C'était comme rouler sur une voie rapide au lieu de prendre une rue normale. Chaque année, des milliers d'immigrants viennent étudier et travailler au Québec dans le but de pouvoir participer au PEC et de s'installer ici pour de bon. Une porte d'entrée qui se ferme. Mais le gouvernement du Québec vient d'annoncer la fin immédiate du PEC. Selon la CAQ, le Québec reçoit trop d'immigrants et il n'y a pas assez de logements et de services, comme les écoles et les hôpitaux, pour tout le monde. Le gouvernement veut aussi s'assurer que les nouveaux arrivants parlent bien français. La CAQ veut réduire le nombre d'immigrants accueillis dans la province dès l'an prochain. Le PEC est remplacé par un système qui attribue des points aux immigrants. Le HIC. Plusieurs immigrants qui étudiaient ou travaillaient déjà au Québec dans le but de profiter du PEC n'ont maintenant aucune garantie qu'ils seront choisis pour rester. Des milliers de gens se retrouvent donc dans un gros flou. C'est le cas de Zacharia, 10 ans. Qui est arrivé au Québec de la Tunisie avec ses parents alors qu'il avait seulement 2 ans. Aujourd'hui, il a peur de devoir quitter tout ce qu'il connaît. Je lui ai demandé ce qu'il aimerait dire au gouvernement pour expliquer sa situation. « Vous nous avez dit qu'on pouvait rester, mais vous nous avez menti. Je suis fâché et je suis triste. » Moi, je veux rester et je veux pouvoir voir mes amis. Zacharia et sa maman ont d'ailleurs manifesté contre la fin du PEC avec des centaines de personnes la semaine dernière à Québec. D'autres rassemblements ont eu lieu en même temps à Montréal et à Sherbrooke. Frédéric se sent trahi. Le parcours de Frédéric. Frédéric II. Qui a quitté la France pour le Québec en 2018. Elle a déjà travaillé pour les As de l'Info. Se retrouve dans la même situation que Zacharia. Je me sens triste, trahi. J'ai décidé il y a 7 ans de partir de la France pour venir au Québec et je me suis fait beaucoup, beaucoup d'amis. J'ai une vie que j'aime beaucoup. Je suis resté étudier ici parce qu'on m'a promis que je pourrais m'installer pour de vrai avec le PEC. Une clause grand-père. La demande principale des immigrants, que le gouvernement annonce une clause grand-père. Non, ça n'a pas rapport avec les papis. Une clause grand-père, c'est une exception qui permet à ceux qui ont déjà un droit de le garder, même si une nouvelle loi l'enlève ou l'interdit. Par exemple, si une nouvelle loi interdit les piscines creusées, une clause grand-père permettrait à ceux qui en ont déjà une de la garder et de l'utiliser. Mais les autres ne pourraient pas en faire construire une. Les immigrants souhaitent donc que les personnes présentes au Québec en ce moment et qui avaient déjà commencé à étudier ou travailler puissent quand même profiter du PEC pour immigrer dans la province. Parce que moi, on m'a appris qu'une promesse, on la tenait, m'a dit Frédéric. Pour le moment, le gouvernement refuse d'ajouter cette clause grand-père. Qu'est-ce que cette histoire te fait ressentir? Il est une fois le garçon qui a dessiné le symbole de son école. Un texte de Frédéric Lavoie, paru le 28 novembre 2025 dans les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il est une fois, à notre époque, un garçon qui a toujours aimé dessiner. Quand il avait 2 ans, Liel prenait les poupées de sa grande sœur et essayait de les reproduire sur papier avec ses crayons. À la garderie, il a commencé à faire le portrait des gens qui voulaient bien poser pour lui. Et ça pouvait être bien long. Liel ajoutait même parfois quelques petits détails pour rendre leur visage un peu plus rigolo. En première année, sa professeure d'art plastique, Madame Cathy, a tout de suite remarqué le talent de Liel. Elle l'a encouragé à poursuivre sa passion. À la maison, ses parents aussi l'encourageaient. Sa mère lui achetait un nouveau cahier de dessin chaque fois qu'il finissait d'en remplir un avec les personnages qu'il voyait à la télévision, les choses qu'il observait dans la maison et de tout ce qui sortait de son imagination. En deuxième année, quand Mme Cathy a organisé une exposition d'œuvres des élèves de 3e à 6e année, elle a fait une exception pour que Liel puisse y participer. Et son œuvre était à la hauteur de celle des plus grandes et des plus grands. Un jour, un vieux monsieur est venu donner un atelier à son école. Monsieur Claude était très connu. Depuis des dizaines d'années, il confectionnait des œuvres à partir de papier et de carton qu'il découpait, pliait et assemblait. Il avait animé plusieurs émissions de télévision pour la jeunesse. Ses œuvres avaient marqué des milliers d'enfants. Liel a évidemment trouvé M. Claude très talentueux et original. Mais ce qui l'a encore plus frappé, c'est que M. Claude avait toujours le sourire. Même après toutes ces années, sa passion pour son art brillait encore dans ses yeux. Quelques mois plus tard, durant une grande pandémie qui a frappé le monde entier, M. Claude est malheureusement décédé. Peu après, quand Liel est arrivé en 6e année, il a appris que son école allait bientôt s'agrandir. Elle allait aussi changer de nom pour porter celui de M. Claude. Une façon de rendre hommage à ce grand artiste qui avait su transmettre sa passion aux enfants. C'est à ce moment que Mme Cathy a lancé un concours pour trouver un nouveau logo pour l'école. L'ancien symbole était un lion entier de la tête aux pattes. Liel a bien sûr voulu participer au concours. Un soir à la maison, il a fait un premier dessin. Une simple tête de lion. Bien dessinée, mais pas très originale. Liel n'en était pas très satisfait. Le lendemain, il a apporté son dessin à l'école pour l'améliorer durant le cours d'art plastique. Mais catastrophe! Alors qu'il le retouchait, sa voisine de chaise a renversé un bol d'eau directement sur le dessin de Liel, et quand il a voulu sauver son dessin, le papier s'est déchiré. Mais Liel n'était pas vraiment fâché. En fait, cet incident lui a donné la chance de faire mieux. C'est à ce moment que Liel a eu un éclair de génie. Puisque l'école allait porter le nom de M. Claude, il fallait s'inspirer de ses œuvres en papier pour le logo. Liel a donc séparé son nouveau dessin en deux. D'un côté, une moitié de tête de lion en couleur et de l'autre, une moitié en papier plié comme l'aurait confectionné M. Claude. En un dessin, Liel avait réussi à unir le passé de l'école et sa nouvelle identité. Et il a remporté le concours. Quelques années plus tard, quand l'école rénovée a été inaugurée avec son nouveau logo, Liel a reçu un grand honneur. Il a été invité à l'Assemblée nationale, où une députée a reconnu son talent devant tous les politiciens, sa famille et Madame Cathy. Ce n'est pas tous les jours qu'un enfant imagine le logo de son école. Cette histoire est bien vraie. Liel Lelot était un élève de sixième année à l'école Christ-Roi de Longueuil quand il a dessiné son nouveau logo. L'école porte maintenant le nom de Claude Lafortune, qui a notamment animé les émissions de télévision « L'Évangile en papier » et « Parcelles de soleil ». Si tes parents ont grandi au Québec, ils le connaissent très certainement. Liel est aujourd'hui en secondaire 3, et il continue de dessiner, notamment des vêtements. Quand je lui ai parlé, il m'a confié qu'il songeait à devenir designer de mode. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dessiner? Pourquoi un gros tuyau a fait démissionner ce ministre écolo? Un texte de Camille Lopez, paru le 28 novembre 2025 dans les As de l'Info. Jeudi, le premier ministre du Canada a autorisé la construction d'un nouvel oléoduc, un immense tuyau qui transporte du pétrole, au pays. En réaction, un de ses ministres a démissionné, Stephen Guilbeault. Pourquoi? Il a passé sa vie à défendre l'environnement et, selon lui, cette décision va nuire à la lutte au changement climatique. Je t'explique cette nouvelle. Une bonne nouvelle pour le pétrole. Le premier personnage de cette histoire, Mark Carney, qui est le premier ministre du Canada, a serré la main à Danielle Smith, la première ministre de la province de l'Alberta, pour souligner son approbation au point de vue du projet. Une photo a été prise jeudi après la signature d'une grosse entente. Mark Carney a donné la permission à l'Alberta de construire un oléoduc. S'il est construit, il transportera du pétrole de l'Alberta en passant par la Colombie-Britannique. Ce qui est particulier, c'est que la Colombie-Britannique s'oppose à sa construction, alors que l'oléoduc traverserait son territoire. Autre aspect étonnant, M. Carney a donné une permission spéciale pour que cet oléoduc n'ait pas à suivre les lois canadiennes qui protègent l'environnement. Un polluant. Le pétrole. Ça sert à créer du carburant utilisé par les voitures, les camions et même les avions. On l'utilise aussi pour fabriquer du plastique. Son extraction du sol et son utilisation créent beaucoup de gaz à effet de serre, la principale cause des changements climatiques. Un ministre inquiet pour le climat. C'est Stephen Guilbeault, le troisième personnage de l'histoire, qui, quelques heures après la signature de l'entente sur l'oléoduc, a démissionné de son poste de ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Pour comprendre pourquoi, il faut reculer un peu dans le temps. Stephen Guilbeault, avant d'être en politique, il était un militant écologiste hyper impliqué. quand il était jeune, il a fondé un organisme écologiste qui s'appelle Équiterre, qui existe encore et que tu connais peut-être. Il a aussi travaillé pour la très grande organisation écologique Greenpeace. En 2001, il a même été arrêté après avoir grimpé la tour du CN à Toronto pour y suspendre une bannière accusant le Canada et les États-Unis de tuer le climat. À l'époque, c'était la plus haute tour du monde. Il est devenu politicien en 2019. Son objectif, défendre la cause de l'environnement à l'intérieur du gouvernement. Il est ministre de l'Environnement du Canada de 2021 à 2025, mais il a perdu ce poste à l'arrivée de Mark Carney. Dans les derniers mois, plusieurs des règles que Stephen Guilbeault avait lui-même mises en place pour lutter contre les changements climatiques ont été défaites. Et jeudi, il a déclaré dans une lettre « Un oléoduc vers la Colombie-Britannique aurait des impacts environnementaux majeurs. » C'était la goutte d'eau ou de pétrole qui a fait déborder le vase. Et il a quitté ses fonctions de ministre. C'est une façon de marquer son désaccord. Cependant, il reste député du Parti libéral du Canada. Le Canada a mauvaise réputation. Lors de la COP30 ce mois-ci, le Canada a gagné un prix très gênant. Le fossile du jour. Il est décerné aux pays qui font le moins d'efforts possible pour défendre l'environnement. Pourquoi? Parce que le gouvernement canadien a annoncé plusieurs reculs dans la lutte contre les changements climatiques. Et toi, que penses-tu de la décision de Stephen Guilbeault de démissionner? Aurais-tu fait la même chose à sa place? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.